SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler de Piaf avec Nathalie Lhermitte. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
Piaf qui est au cœur de l'actualité, d'ailleurs, avec les Jeux Olympiques. On va en parler un petit peu de tout ça. Mais vous êtes en Australie, vous nous amenez l'amome Piaf. Parlez-nous un petit peu de ce cheminement jusqu'ici, à la fois géographique, mais également peut-être un cheminement de carrière, parce que Piaf, c'est à la fois pas tout jeune, mais tellement moderne.
Tout à fait.
En tant que telle.
Tout à fait. Ah oui, en fait, elle est... Ce que je dis toujours, Piaf est un drapeau et elle représente énormément. Alors surtout, on le voit à travers les nombreux pays que l'on traverse. Elle est un symbole franco-français.
C'est un étendard.
C'est un étendard, absolument. Plus qu'un drapeau, c'est vrai, c'est un étendard. Un étendard émotionnel. Et je pense qu'elle synthétise énormément de choses. De par son trajet artistique, elle symbolise quelque chose de très vrai, d'une espèce de vérité qui finalement, on s'aperçoit que la vérité est internationale, intergénérationnelle, intemporelle. Finalement, la vérité ne meurt pas et elle traverse les générations comme ça. Et je pense que même, et socialement, elle symbolise quelque chose comme le fait que tout est possible. Cette femme qui est presque née dans la rue, parce que sa légende dit qu'elle est née dans la rue, mais elle n'est pas née dans la rue, elle a fabriqué sa légende, c'était quelqu'un de très 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 intelligent. Mmh. Elle symbolise qu'on peut être né presque dans la rue et arriver au sommet. Donc aujourd'hui, dans ce monde un petit peu en désespérance, elle symbolise quelque chose de très fort.
Mais on peut aussi faire une virgule en disant qu'elle peut aussi être l'épitaphe de « l'argent ne fait pas le bonheur », parce qu'elle a été très très riche, mais elle a eu une vie plutôt misérable en fait, au final, une vie amoureuse misérable, une vie de santé misérable. Elle est morte très jeune, même si elle avait l'air de faire trois fois son âge, presque, sans faire un mauvais jeu de mots. Voilà, elle a eu cette vie très dure, même si elle a eu beaucoup d'argent, en fait, au final, une vie très compliquée qui se ressent peut-être dans ce caractère, dans cette voie également.
Alors oui, je pense qu'elle... Alors elle a eu une vie très compliquée et en même temps, elle a eu des coups de chance extraordinaires. En fait, elle est morte à 47 ans, c'est vrai, elle est morte très très jeune.
C'est deux ans de moins que moi, c'est incroyable.
Et elle est morte à 47 ans, mais avec une vie très dense, mais elle l'a voulu. Telle qu'elle. Elle a voulu que ce soit très intense. C'était une femme qui vivait à 100%. Et pour parler de l'argent, elle s'en fichait absolument. Elle n'avait absolument aucun rapport avec l'argent. Elle n'a jamais acheté d'appartement, sauf peut-être celui qu'elle achetait à Boulogne-Billancourt pour que Marcel Cerdan soit près du bois de Boulogne pour qu'il puisse faire son jogging. Voilà, c'est tout, qu'elle a revendu aussitôt. Mais elle n'a jamais acheté, elle n'a jamais acquis des choses. En fait, comme dans la rue, elle disait que, par exemple, dans la rue, elle gagnait très bien sa vie. Elle disait qu'elle gagnait très bien sa vie et qu'elle s'achetait des vêtements, ou elle achetait des vêtements pour sa petite fille qui est morte à 2 ans et demi. Elle achetait des vêtements et quand ils étaient sales, elle les jetait. Voilà, elle a un rapport avec le matériel qui est complètement détaché. Donc en fait,
aujourd'hui, ce serait pas tellement écologique.
Non, pas du tout, pas du tout. Et en fait, elle est morte dans la misère. Hein. Ouais. Elle est morte absolument dans une misère noire. C'est Théo Sarapo qui a payé ses dettes, qui a payé ses dettes. Il est mort quelques mois après. Mais en fait, elle avait quelque chose de très sain. Elle ne s'attachait à rien. Elle ne vivait que pour l'instant. Dans le développement personnel, on trouverait ça extraordinaire parce que c'est le pouvoir de l'instant présent. 13 ans, Piaf, en fait. Ouais, hein. C'était, ouais. Ouais, c'était un symbole très fort.
C'est, pour vous, en tant qu'artiste, se frotter à quelqu'un d'aussi grand, bon, à la fois petit par la taille, mais grand par la puissance, grand par l'aura, dans le sein d'une carrière, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que psychologiquement, c'est pareil, s'intégrer dans le personnage de Piaf, c'est toujours... Voilà, bon, on sait que ça a été bien fait au cinéma. Enfin, il y a vraiment des grosses comparaisons par rapport à ça aussi.
Alors oui, en fait, il faut pas. Moi, c'est la première fois qu'on m'a proposé le rôle de Piaf, c'était il y a 26 ans.
D'accord.
Un metteur en scène, je venais pour une audition, j'entrais d'une tournée en Angleterre avec les Rubettes, donc rien à voir. Je revenais en France et un ami m'a dit, ouais, il y a des auditions pour la comédie musicale Piaf, je t'aime. Et je lui dis, moi, je vais passer un rôle, mais loin de moi de vouloir faire le rôle de Piaf. Je n'avais absolument pas cette velléité. Et le metteur en scène parle avec moi, il me demande si j'avais chanté Piaf, et il me dit, bah, vous êtes Piaf. Il me demande de faire des enregistrements. Je dis, mais vous êtes fou, je veux pas faire le rôle de Piaf. Et, bon, moi j'avais eu un choc avec Piaf à l'âge de 4 ans, je me suis remémoré ça, il y a eu des choses un peu extraordinaires qui me sont arrivées, je traversais une période de ma vie très dure, et j'ai dit oui, je ne sais pas comment, et ça a changé ma vie en fait. Je dis toujours que j'ai pris les chagrins de Piaf pour verser mes larmes, je lui dois énormément à Piaf, je lui dois ma psychothérapie sur scène, je lui dois presque la vie, et jamais je me suis dit je vais lui ressembler parce que elle est incomparable. Comme disait Jean Cocteau, il n'y a jamais eu d'Édith Piaf, il n'y en aura plus jamais. Moi, ce que je fais, c'est ma lettre d'amour à chaque fois. Ça fait 26 ans que je monte sur scène et que j'ai la même sensation et cette même envie. C'est lui rendre hommage par la vérité, par le fait que elle m'a envoyé quelque chose à l'âge de 4 ans, qui est très très puissant et très très fort, et je ne me fais que référer à ça, à cette émotion, à ce bouleversement qui s'est passé, et je ne fais que donner mes cellules aux chansons. Je ne suis pas Piaf. Je ne fais que... alors tous ensemble, avec les musiciens, avec l'équipe, avec la lumière, avec le son, parce que c'est aussi un travail d'équipe, je ne suis pas seule sur scène. Hein. Sans le son, la lumière, je n'existe pas non plus. Nous ne faisons que réveiller, en fait, des émotions qu'elle a elle-même passé sa vie à installer dans le ventre des gens. Voilà, c'est
d'accord,
tout.
D'accord, ok. Parce que vous parlez de vous n'êtes pas seule sur scène. Elle, c'est pareil. Elle était à la fois seule sur scène sans être seule.
Oui.
Elle était un peu tout le temps entourée de monde, ce qui peut-être lui a valu une partie, entre guillemets, sa déchéance. Hein. Mm-hmm. C'est les mauvaises rencontres qu'elle a pu faire, les abus à gauche, à droite, etc. C'était une vie compliquée.
Mais elle l'a voulu telle qu'elle. Mm-hmm. Elle l'a voulu telle qu'elle. C'était une femme qui ne supportait pas la solitude. Il fallait qu'il y ait du monde tout le temps autour d'elle. Je pense qu'elle avait une grosse blessure d'abandon étant petite fille. Même quand elle allait aux toilettes, il fallait quelqu'un derrière sa porte hein, pour dire qu'elle était vraiment, elle avait besoin de ça. Elle était consciente, elle avait toujours 25 personnes qui venaient manger. Elle était consciente qu'elle arrosait tout le monde, qu'il y avait des gens qui piquaient des choses, elle s'en foutait. Elle, ce qu'il lui fallait, c'était du monde, c'était de l'action, c'était jamais...
C'était le prix à payer, en fait.
Oui. Et en fait, je pense, je lui dis toujours, son plus grand amour, c'est son public. Et elle avait une peur panique, c'est qu'on l'oublie. Elle ne vivait que pour ça, en fait.
Elle serait fière aujourd'hui de voir que, justement, elle n'est pas oubliée, elle est au cœur des discussions autour de cette chanson ou pas, pour les Jeux Olympiques. Enfin, c'est même presque hallucinant de penser que c'est un événement qui célèbre peut-être le futur. Mais, quand on regarde derrière... Piaf coule de source.
Oui.
Elle en serait fière, ça, ou elle serait un peu gênée?
Non, je pense qu'elle en serait plus que fière, puisqu'elle a travaillé à sa postérité. C'était une femme qui avait un sens de ce métier incroyable. Petite femme d'1m47, mais qui en avait dans la tête, autodidacte, qui n'est jamais allée à l'école. Elle a appris à lire, à écrire. Quand elle est allée en tournée aux États-Unis, elle a appris à parler anglais. Elle c'était une bosseuse. Et elle avait un sens de ce métier. C'est la première à manipuler la presse, par exemple. Mm-hmm. Elle avait un sens aigu de ce métier. Et elle a travaillé à sa postérité. Elle a demandé à son dernier photographe de la photographier sur son lit de mort pour passer à la postérité. Elle a travaillé à ça. Et je pense qu'elle en est plus que fière. Je pense qu'elle est satisfaite de ça, parce qu'elle y a travaillé très dur.
D'accord. Vous avez mentionné Marcel Cerdan. Il y a plusieurs films qui ont été faits, des histoires qui ont été racontées autour de cette histoire d'amour, parce que c'est tellement un amour tragique, un amour presque improbable, mais tellement tragique. Lui, l'espèce de bête, de brute sur les rings, mais tellement gentil dans la vie. Elle qui, si petite, si menue, avec cet homme qui était quand même plutôt la taille d'un ours, hein, faut quand même le dire. Elle a été marquée par ce décès. On se rappelle qu'il est mort dans un avion, un avion de Constellation en retour de New York après un combat. Elle l'attendait, il est décédé, il est jamais arrivé. Enfin, il y a eu des chansons dessus, il y a eu tout ça. Mais à quel point elle a été marquée par... Il y a eu plusieurs hommes dans sa vie, il y a eu plein d'hommes dans sa vie, mais Marcel Cerdan, c'est...
Alors, Marcel Cerdan, en fait, ça a cristallisé parce que c'est un amour éclaté en plein vol, si je puis m'expliquer.
Oui, tout à fait.
En fait, elle a été marquée beaucoup plus par la culpabilité. Piaf...
Elle l'a forcé à revenir plus tôt.
Et oui, c'est ça, parce que il voulait pas prendre l'avion, et tout faisait qu'il ne devait pas prendre l'avion. Il était sur liste d'attente, il a oublié son passeport en partant, enfin, il ne devait pas prendre cet avion. Il ne prenait jamais l'avion.
Oui, il avait une peur bleue de l'avion.
Il avait une peur bleue de l'avion.
Mais l'amour l'a poussé à vouloir prendre cet avion.
Oui, et puis c'est Piaf qui a insisté, voilà. Mais Piaf était une amoureuse de l'amour. Voilà. En même temps, c'était pas une briseuse de ménage, c'est important de le dire, parce qu'elle était très très consciente aussi que Cerdan était marié, qu'il n'aurait jamais quitté sa femme, qu'il avait une famille, et elle en prenait soin. Donc en fait, cet amour, sûrement que cet amour serait arrêté à un moment donné, sauf qu'il a été cristallisé par ça, et surtout elle a énormément culpabilisé, et ce qui a déclenché aussi sa polyarthrite rhumatoïde, cette maladie auto-immune. Donc elle a déclenché cette maladie ensuite par la culpabilité d'avoir tué Cerdan, qui a fait que elle prenait de la morphine.
Là, vous avez mis les guillemets, on les voit pas, mais vous les avez bien.
Ouais, et ensuite elle a donc développé cette maladie qui lui a fait prendre de la morphine en excès, parce que c'était quelqu'un de très excessif. Elle n'était pas droguée, hein. Elle était droguée à la non-souffrance. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui fait énormément souffrir, surtout dans les années 60, où on n'a rien d'autre que la morphine et la cortisone. Et donc, comme c'était quelqu'un d'excessif, quand on lui disait « Madame Piaf, prenez un gramme de morphine pour pouvoir monter sur scène », elle s'arrangeait pour en prendre trois, pour aller trois fois mieux, pour rester trois fois plus longtemps. Et si on lui disait « Vous allez mourir demain », elle dit « Mais demain, je m'en moque. Moi, c'est maintenant que je veux vivre. C'est maintenant que je veux vivre à 100%. » C'est ça qui l'a tuée, en fait. Donc oui, elle a été marquée, je pense. C'est effectivement, Cerdan a été un tournant dans sa vie parce que ça a basculé aussi sa santé, en fait, physique et morale, fatalement. Et donc effectivement, c'est
pour ça que voilà, les gens comme Claude Lelouch se sont un petit peu concentrés. Parce que c'est un moment tellement charnière.
Et bien sûr. Et puis en plus,
on raconte deux histoires.
Ces deux personnages qui en fait se sont rencontrés à New York, étaient seuls à New York, parce qu'en fait c'est ça. Hein. Piaf isolé presque à New York, lui arrivant à New York isolé, il se retrouve dans un bar, et ces deux Français qui disent oh des Français, on peut parler. Enfin voilà, c'est ça. Hein. C'est ça qui s'est passé. Cette rencontre un peu improbable qui fait que d'un seul coup, ils se sont sentis des points communs et ils se sont donné la main et c'est ça en fait. Mm-hmm.
C'est un très beau film d'ailleurs, si vous pouvez le voir, c'est un très beau film de Claude Lelouch.
Mais Edith et Marcel, oui, bien sûr.
C'est fantastique. Oui. En parlant un peu de vous, qu'est-ce que vous nous apportez ici à Melbourne, en Australie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir?
Eh bien, en fait, surtout, sentir et entendre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est réveiller en vous ce que vous avez de Piaf en vous. Je pense qu'on a tous une Piaf, comme disait Johnny, on a tous quelque chose de Tennessee. Je pense qu'on a tous quelque chose de Piaf, en fait. Et je me suis aperçue, moi, je me suis un petit peu intéressée j'adore les mécanismes de l'être humain et surtout de ses émotions. Je me suis intéressée un petit peu à l'ADN, à la génétique. Et je me suis aperçue qu'en épigénétique, on avait une partie de notre ADN, en fait, qui se modifiait et se modifiait avec les émotions que l'on traversait. Et je me suis dit, si cette partie de notre ADN est modifiée par nos émotions que l'on traverse, elle est forcément modifiée par les chansons qu'on reçoit qui sécrètent en nous des émotions. Et c'est pour ça que je me suis aperçue que finalement, Piaf, elle traverse notre ADN. Et c'est pour ça que dans les jeunes générations, les gens, ils pleurent, les jeunes pleurent ou ils sont émus, mais parce qu'en fait, c'est les émotions que leurs parents, leurs grands-parents ont traversées à travers Piaf qui en fait se réveillent en nous. Donc j'aime à dire qu'on est des éveilleurs d'émotions qui sont au fond cachées. Et c'est un peu cette phrase de Stendhal qui dit la bonne musique ne se trompe pas, elle va tout droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui vous dévore. C'est ça, Piaf.
Ah, c'est splendide. Oui. Et d'ailleurs, quand on parlait de la jeunesse, je vais faire une aparté totale, mais c'est vrai que quand on avait vu la France qui représentait à l'Eurovision avec cette chanson Voilà de Pravi, qui était
très empruntée,
totalement empruntée,
je veux dire, on peut le dire.
Mais c'était les années 2020 et aucune honte à avoir cette jeunesse, cette patte dans ce que représentait la France à l'Eurovision.
Mais non, parce que elle est franco-française déjà, elle est notre identité profonde. Et je pense que les bonnes chansons, les chansons l'émotion ne meurt pas, la vérité ne meurt pas. Et ces chansons, alors c'est vrai que c'est peut-être l'arrangement qui va être un petit peu désuet aujourd'hui, on va dire avec. Mais la chanson en elle-même, elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi puissante, elle nous parle toujours autant. Voilà.
Il y a des chansons que vous aimez plus que d'autres?
évidemment.
Peut-être pour relations personnelles, enfin je sais pas. Et est-ce que c'est La Vie en rose, parce que c'est la chanson iconique, emblématique d'Edith Piaf. Est-ce qu'on peut se détacher justement de La Vie en rose? Il y a tellement d'autres
mais
chansons.
Bien sûr, hein. Il faut se détacher et surtout il faut s'en détacher parce qu'il y a mille façons de chanter Piaf, il y a mille façons de l'interpréter et heureusement, les chansons, il faut pas qu'elles meurent. C'est comme dans la chanson de Michel Legrand, il y a rien de plus triste qu'une chanson qui meurt. Non, les chansons doivent continuer à vivre. Et moi, ma chanson préférée, c'est Milord.
D'accord. Okay.
C'est Milord parce
allez,
que...
Allez, venez danser, Milord.
Voilà, c'est ça. Parce que j'ai bien...
Je peux vous faire la fronde de la chanter, mais bon.
Non, mais vous pourriez. Hein. J'ai bien connu Georges Moustaki, qui m'en a beaucoup parlé, qui est l'auteur de cette chanson. Et cette chanson, elle a de particulier, c'est que c'est une... En 3 minutes, elle vous fait passer par toutes les émotions. Elle est d'une subtilité rare. Et surtout, on pense que c'est une chanson un peu gay, comme ça, à boire. Allez, venez, Milord. Et en fait, c'est l'une des chansons les plus triste du répertoire de Piaf. Elle est d'une complexité, elle est d'une densité, elle est à jouer, c'est une merveille. Donc,
c'est un peu comme, si je fais juste une corrélation, c'est La Valse à mille temps de Jacques Brel.
Un peu.
Il y a quand même, enfin je sais pas, peut-être je me trompe, mais
oui, tout à fait.
Il y a une corrélation.
Absolument, tout à fait. C'est tout ce voyage émotionnel avec cette femme qui passe de l'espoir au désespoir, à l'ironie, enfin elle passe partout. Et bon, on peut imaginer qu'à la fin, elle se suicide tellement elle est désespérée. Mm-hmm. Donc c'est l'une des chansons les plus tristes du répertoire de Piaf, mais tout le monde tape dans les mains, voilà. Et elle est faite pour ça. C'est une merveille.
Est-ce que, et on va finir à peu près là-dessus, mais est-ce que c'est épuisant physiquement de chanter Edith Piaf sur scène? On voit qu'elle se donnait à 200%, un peu comme, je sais pas, Johnny Hallyday à l'époque sortait sur presque une civière. Enfin, les gens, à cette époque-là, certains artistes comme eux, Jacques Brel d'ailleurs en l'occurrence, ne laissaient rien en dehors de la scène. C'était 100% de l'énergie qui allait sur la scène. Edith Piaf, c'était la même chose. Est-ce que pour vous, c'est un peu pareil? Après 26 ans, vous êtes un peu plus habitué. Peut-être maintenant, vous avez l'énergie et l'entraînement. Mais est-ce que vous sentez que vous vous videz littéralement d'énergie quand vous chantez?
Alors, en fait, le 100% est indispensable. On laisse rien passer. Et je pense qu'il y a ce qu'il y a de plus peut-être épuisant, c'est qu'on va chercher très très loin les choses. Les choses vont très loin dans les émotions. Il y a rien. On peut pas rester en surface. On peut pas rester en surface. Effectivement. Donc oui, physiquement c'est épuisant. Là par exemple, je suis à moins 3 kilos au début de la tournée là. Voilà. Mais ça me va, hein, ça me va très bien.
Heureusement, la gastronomie australienne va vous aider. Hein,
exactement. Et puis, c'est un peu comme des valises. C'est marrant parce que j'ai la sensation d'arriver avec des valises pleines, comme ça. Et quand je repars du show, mes valises sont vides.
Voilà. D'accord. Bah, vous habitez une belle région, donc vous rechargez pas mal.
Oui, absolument.
Merci de nous avoir visité.
Avec grand plaisir.
SBS, et puis on mettra tous les détails sur notre site internet. Merci.
Merci.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.